Bienvenue dans les podcasts La Maison. Le message vous est délivré par David Trippé dans le cadre des premiers baptêmes de l'église La Maison. Bonne écoute.
Ouais, c'est cool, ça, on est vraiment dans la joie de vivre ces baptêmes. C'est effectivement un grand jour, c'est un jour de joie, de réjouissance. Et ouais, on veut vraiment se réjouir tous ensemble. Et le baptême, c'est comme le début d'une nouvelle vie. C'est le début de quelque chose de nouveau. C'est pas juste un signe comme ça, religieux, ou c'est pas une tradition, une cérémonie traditionnelle ou autre, juste comme ça. C'est vraiment un signe biblique d'une nouvelle vie, d'un nouveau départ, d'une purification. Mais ce n'est pas le baptême en soi qui vous purifie, mais c'est un signe qui démontre qu'on veut vivre une vie nouvelle. Et c'est ce que j'aimerais un peu vous introduire, vous parler un peu maintenant pendant à peu près 2 heures. Ça va? Bon, ça. Le mot baptême, déjà, juste en petite intro, ça veut dire, ça veut dire du grec baptizo, qui parle d'être immergé. Donc, d'où le baptême par immersion, parce que c'est un baptême, et c'est immergé. Et c'est vrai que dans l'Église catholique, entre autres, et dans d'autres églises, des fois, c'est par aspersion. Mais le baptême, comme on le voit dans la Bible, il est par immersion. Et c'est le baptême des adultes, parce que ça découle d'un choix de la personne de vivre le baptême. C'est pas quelqu'un d'autre qui prend le choix pour toi. Et dans la Bible, on va voir plusieurs histoires qui nous parlent du baptême. Déjà avant Jésus, mais il y a des baptêmes après Jésus qui sont un peu différents parce qu'on vit le baptême en se rappelant la nouvelle vie que Jésus nous offre. Et un des textes bien connus qui en parle, c'est, on en a parlé hier soir, mais c'est Romains 6, c'est Paul. Donc là, Paul est un apôtre, un homme qui a été choisi par Dieu, vraiment qui persécutait les chrétiens au tout début de l'Église. C'est pas qu'il s'est parti d'Al-Qaïda. Mais presque. Il persécutait vraiment les chrétiens et il était saisi par Dieu, touché par Dieu lors d'un voyage, une révélation puissante de Dieu. Il était même rendu aveugle et il entend Dieu lui dire: va vers telle personne, va vers telle personne. Cette personne prie pour lui et retrouve la vue. Et en retrouvant la vue, il est touché vraiment par l'amour de Dieu et il devient un des plus grands messagers de l'évangile. Et c'est l'apôtre Paul qui a permis la création de plein d'églises dans toute la région, tout pour tout méditerranéen jusqu'en Italie, donc depuis à peu près ce qu'est la Turquie actuelle, la Grèce, toutes ces régions-là. Et il a écrit entre autres une lettre aux Romains, donc c'est ce qu'on appelle l'épître aux Romains. Et au chapitre 6, il écrit ceci, et je vous le mets à l'écran, dans la traduction Parole de vie, il est dit ceci: « Par notre baptême, nous nous unissons au Christ Jésus, nous à tous unis. Pardon, il y a.
C'est sur la bonne slide. Non, c'est juste qu'il va rajouter un mot. C'est pas notre baptême, c'est notre baptême.
Ouais, notre baptême en nous unissant au Christ Jésus. Il manque le début de la phrase, c'est voulu. À tous unis à sa mort. Donc, par le baptême, nous avons été plongés avec lui dans la mort. Mais la puissance glorieuse du Père a réveillé le Christ de la mort pour que nous aussi, nous vivions une vie nouvelle. En effet, nous avons été totalement unis à lui au moment où nous sommes morts avec lui. De même, nous serons aussi unis à lui en nous levant comme lui de la mort. C'est bizarre tout ce qu'il écrit, vous êtes d'accord avec moi, non? Comprenons bien ceci. Ce que nous étions avant a été cloué sur la croix avec le Christ. Alors le péché qui fait partie de nous-mêmes a été détruit et nous ne sommes plus esclaves du péché. Je m'arrête déjà là. Ce texte, il est vraiment fort parce que Paul, il est en train de dire là, c'est comme si le péché te rendait vraiment esclave. Puis tout ce qu'on fait, tout... qui c'est qui ne pêche pas ici? Tu ne pêches pas du tout? On commet tous le corps des péchés. Mais avant de connaître Christ, le péché avait une emprise qui est différente dans notre vie, qui n'est pas juste que de temps en temps on pêche, mais qu'on est esclave de ça et qu'on est comme lié à cette nature pécheresse. On ne peut pas s'en défaire. On fait plein d'efforts par nos propres forces pour se défaire du péché. On a essayé plein de choses, l'être humain a essayé plein de choses pour se défaire de cette nature du péché qui est comme une nature qui est ancrée en lui, puis c'est presque comme si c'est partie de ton ADN, puis tu n'arrives pas à t'en défaire. C'est tellement fort. Et tu n'arrives pas à se défaire de cela, mais là, Paul dit, que quand Christ est mort à la croix, alors il a pris cet ADN de péché, il a pris cette vie de péché et il l'a cloué à la croix pour toi. Parce que lui qui n'a pas péché, lui qui est sans aucun défaut, lui qui est le seul sur cette terre à n'avoir fait aucun péché, a choisi de mourir pour nous à la croix et de crucifier le péché et tout ce qui te lie à la mort en fait. C'est pour ça qu'il est dit, on était plongé avec lui dans la mort. Quand tu es plongé dans le baptême, ben, tu es plongé quelque part dans la mort. C'est un peu glauque, mais en fait, c'est pour dire qu'au fond de l'eau, on va mettre tout ce qui est ta vie, nature, tout ce qui est mort. Et la puissance glorieuse du Père qui a réveillé, ressuscité Jésus le troisième jour, il a vaincu la mort, il a été ressuscité, il est sorti du tombeau. Et bien, la même, nous, on va, et vous, par le baptême, vous sortez du tombeau, vous sortez de la mort et vous découvrez une vie nouvelle en Jésus-Christ. Et vous n'êtes donc plus esclaves du péché. Et donc, il est dit, celui qui est mort est libéré du péché. La suite du texte nous dit ceci. Donc, nous sommes morts avec le Christ et nous croyons aussi que nous vivrons avec lui. Nous le savons bien, depuis que le Christ s'est réveillé de la mort, il ne doit plus mourir. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Le Christ, il est mort et sa mort l'a séparé totalement du péché, une fois pour toutes. Maintenant, il est vivant et sa vie est tout entière pour Dieu. De même, vous aussi, vous devez penser ceci, vous êtes mort, étant totalement séparé du péché, mais uni à Jésus-Christ, vous êtes vivant pour Dieu. Ça ne veut pas dire que vous êtes vivant pour Dieu, ça veut dire que maintenant vous allez être dans un monastère ou dans le ministère compétent pour Dieu. Mais ça veut dire que votre vie, elle est accrochée à celle que Christ il a pour vous. Vous êtes lié à lui, vous faites partie de lui pleinement. Il y a une vie extraordinaire à vivre avec lui. Et ça, c'est la nouvelle vie en Dieu. Et c'est pour ça qu'on parle d'une nouvelle naissance, on parle d'une nouvelle vie que Dieu nous donne. C.S. Lewis, qui est un auteur bien connu, qui a écrit entre autres Narnia, ceux qui connaissent les chroniques de Narnia, il a dit ceci, il est peut-être difficile pour un œuf de se transformer en oiseau, mais c'est encore plus difficile de voler quand on reste en œuf. Et j'aime tellement ça. Je pense que Camille serait mieux que moi, mais sauf erreur, c'est la même ADN dans un œuf que dans un oiseau. On est bien d'accord. L'ADN qui est là-dedans, ce sera la même que l'oiseau volera. La question, c'est que donc, chaque ADN est unique. Chaque œuf a son ADN. Chaque œuf a son identité. Chacun, on est unique. Chacun, on est créé unique, avec une spécificité unique. Mais est-ce qu'on veut rester dans l'œuf, dans la protection de notre coquille d'œuf? Et puis rester là-dedans, puis tu peux rester dans ton œuf bien au chaud, couvé par une bonne maman qui te couvre, et puis mourir dans ton œuf. Ou alors tu peux être cet oiseau qui casse la coquille et qui découvre la vie. Et quand tu découvres la vie, ben au début tu es nourri par un moment oiseau. Puis à un moment donné, tu prends ton envol, puis tu découvres plein de choses. Et l'oiseau va découvrir plein d'horizons nouveaux, va découvrir plein de parfums nouveaux, va se nourrir de choses nouvelles, va voir plein de paysages nouveaux. Il y a une magie nouvelle qui se découvre et il découvre la vie. Et ce que Christ nous propose, c'est de sortir notre œuf. De sortir de la mort et découvrir la vie. Non pas que l'œuf, c'est la mort, mais que de rester dans cet œuf tout le temps, oui, ça t'amène à une mort, sans même découvrir la vraie vie. Donc, Dieu fait quelque chose de nouveau en vous. Quelque chose de vraiment nouveau. Dans le prophète Ésaïe, qui est un prophète de l'Ancien Testament, bien avant Jésus, disait ceci, « Je vais faire une chose nouvelle qui est déjà en germe. » Ne le remarquerez-vous pas, je vais tracer un chemin en plein désert et mettre des fleuves dans les endroits arides. Et ce texte-là, on l'a un peu chanté tout à l'heure, Waymaker, tu traces un chemin, tu feras un chemin. C'est vraiment ce que Dieu fait. Là où tout semble aride devant toi, là où tout semble dur devant toi, là où tout semble sec et tu ne trouves pas de solution, là où tu dis c'est que du désert, ben Dieu vient tracer un chemin. On était à Las Vegas, la photo qui était, il y a une des photos qui avait une route un peu dans le désert que vous avez vu tout à l'heure, c'était pas loin de Las Vegas, on y était il y a quelques années. Et franchement, vous pouvez rouler des kilomètres, vous voyez que du désert, que du désert, que du désert, que du désert, c'est impressionnant. Et à un moment donné, pouf, il y a une ville qui apparaît. Alors, je ne dis pas que Las Vegas, c'est le paradis, de loin pas, parce que ça, du reste, on l'appelle la ville du péché. C'est marqué en gros que vous arrivez à Las Vegas, bienvenue dans la ville du péché. C'est sympa, mais c'est quand même assez surprenant. Et je crois que des fois, tu peux tomber dans le désert, puis tout d'un coup, paf, il y a quelque chose qui arrive. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui jaillit. Et Dieu veut nous faire jaillir des sources d'eau vive, des choses nouvelles dans le désert. Il va nous faire germer la vie. On travaillait pendant des années quand on était pasteur en Suisse avec une mission qui travaille en Afrique qui s'appelle Jethro. Et ils ont découvert que là, dans les sols désertiques, là où le désert avançait, que juste en mettant un peu de fumier, eh ben, sur le sol, la vie revenait. Et les récoltes ont pu reprendre du terrain sur le désert, parce qu'en fait, la vie était juste là-dessous. Il y a du désert en surface, mais dessous, il y a la vie. Mais c'est ce que Dieu veut faire en nous. C'est ce que Dieu fait en toi, une chose nouvelle. Et le mot nouveau, c'est le mot hadash ou shadash, qui parle de nouveau, mais qui parle aussi de restaurer, de réparer, de confirmer, de rajeunir. C'est vraiment, il y a quelque chose, des restaurations que Dieu fait dans nos vies. C'est l'histoire d'un gars qui est dans le désert et qui prie vraiment, qui dit, ouais, voilà, Seigneur, t'as dit que tu faisais sortir des fleuves dans les endroits arides, alors fais quelque chose, je ne peux plus, je suis assoiffé, j'ai vraiment soif, et puis je ne peux plus, et puis il est épuisé, assoiffé dans le désert. Puis à ce moment-là, alors qu'il prie, puis il dit, si vraiment, si Dieu, si tu existes, parce que je ne sais pas si tu existes, mais si tu existes, alors fais quelque chose. Puis à ce moment-là, il y a un magnifique verre d'eau avec des glaçons devant lui. Super bon verre d'eau avec des petits glaçons, puis une petite paille dedans. Hein. Paf, qui est comme ça posé devant lui, qu'il n'avait pas vu, mais tout d'un coup, paf, il est là. Puis il le voit, puis il dit, ah, il voit ce verre d'eau. Mais il ne le voit pas, parce qu'il dit, non, moi je suis buveur, non pratiquant. Est-ce que tu veux pratiquer ta foi ou juste dire, oh, moi je crois en Dieu, mais je ne vais pas m'en nourrir. Je ne vais pas voir de ce qu'il a pour moi. Des fois, on est un peu comme ça. Ah non, moi c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Ouais, je vois bien que Dieu il agit, mais c'est pour les autres, c'est pas pour moi. Puis on reste là à passer à côté de ce que Dieu a pour nous. Donc mon message, c'est vraiment cette nouvelle vie que Dieu vous donne. Et il y a beaucoup de textes qui en parlent. À un moment donné, Paul il écrit aussi à l'église de Corinthe. Corinthe est une ville qui était très importante dans la Grèce antique. C'était même la ville ou une des villes les plus importantes de l'époque. Et il dit à cette église qui est là-bas, qui a plein de défis en fait, mais il leur dit quelque chose qui est tellement important. Il leur parle de la nouvelle naissance. Et il dit ceci. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et il dit, cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, à qui a été donné le mystère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ. Il réconciliait le monde avec lui-même en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Mais il a mis en nous la parole de la réconciliation. Dieu ne charge pas les hommes de leurs fautes. Parce que Jésus-Christ a pris toute faute avec lui à la croix pour nous. Et il nous a réconciliés. Il nous a donné la parole de réconciliation. Il dit même, nous sommes donc maintenant avec Christ des ambassadeurs, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous vous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, c'est Jésus. Il l'a fait devenir de Dieu. Ce texte est tellement fort parce que ce texte-là, les amis, il dit une chose. Il ne dit pas que tu es justifié par Dieu, c'est-à-dire que tu es rendu juste par Dieu. Il dit que tu es devenu justice de Dieu. Waouh, transformation énorme. Christ est devenu péché, il a connu le péché et il est devenu péché. Jésus, qui n'a pas péché, qui n'a commis aucun péché, qui était parfait, qui est Dieu lui-même, il est devenu péché en mourant à la croix. Le péché, quand il est mort sur la croix, c'est plus lui qui est mort, mais c'est le péché qui est mort avec Christ à la croix. C'est vraiment, il est devenu péché. Et ton péché, tout est mort. Et puis quand Christ est ressuscité, il a dit, je fais de vous justice de Dieu. Parce que vous êtes caché en moi, parce que vous êtes en Christ. Tu passes du péché à la vie. Tu passes de la mort à la vie. Tu n'es plus juste péché, mais tu es justice de Dieu. Christ est devenu péché dans la mort. Mais il est ressuscité et il fait de toi justice. Et on est justice de Dieu. Et c'est le message qu'on prêche aujourd'hui. La foi, ce n'est pas un idéalisme, ce n'est pas une utopie, ce n'est pas un doux rêve. Et ce n'est pas la religion qui va te sauver, mais c'est Jésus. Et la foi, c'est croire que ce Jésus peut venir vers toi, te donner une vie nouvelle. Alors, Paul, il écrit encore à plein de personnes, il écrit aussi à l'église de Colosse, qui là, Colosse, c'était une autre ville qui était en Asie mineure, en Phrygie, et il dit à l'église de Colosse, il dit ceci, il dit que Christ nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, et nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. Donc Christ, non seulement il te fait toi la justice de Dieu, mais il te dit maintenant, ton identité, ta maison, c'est plus cette terre de mort, mais ta maison, c'est en Christ, dans son royaume. Alors, ce n'est pas le jour où tu vas mourir que tu vas te sauver, puis que sur cette terre, tu vas encore te déprimer, puis être dans la mort. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es déjà maintenant, spirituellement, enfant du royaume de Dieu si tu choisis Christ. Si tu choisis Jésus, tu es enfant du royaume de Dieu. Et tu peux hériter de toutes les promesses de Dieu. Tout t'appartient parce que c'est ta maison. Notre église s'appelle la maison, mais il y a une bien plus grande maison que l'église la maison. C'est ta maison au ciel que tu peux déjà maintenant te nourrir tout ce que Dieu a pour toi. Il y a tellement de trésors que Dieu est là pour nous et qui veut nous révéler, qui va vous révéler dans votre vie. Alors, aujourd'hui, vous choisissez de vous faire baptiser, puis nous, on va être témoins de ça. Et puis peut-être que d'autres veulent le choisir aussi, peut-être que d'autres amis, peut-être que d'autres ici se disent « Ah, mais moi, ça me parle ». Et choisir Christ, c'est choisir une vie nouvelle. C'est un peu par la foi, c'est un peu dans la folie, c'est dire « Je ne sais pas ce qui m'attend derrière, mais ce qui t'attend est forcément bon, parce que Dieu n'a pas de mauvaises choses pour toi. Et il sait ce qui est bon pour toi, il connaît ton cœur, il connaît toutes choses pour toi. Il sait ce qui est vraiment bon pour toi. Et quand tu choisis Christ, tu choisis aussi, tu fais partie de la famille. Et aujourd'hui, ben, le baptême, ce n'est pas un acte pour dire « Ah, maintenant vous rejoignez la famille », parce que c'est un acte pour dire qu'on est témoin en famille de ce que vous allez vivre, que vous choisissez Jésus. Et puis, c'est par contre un signe qui fait que, hé, hey, trop cool. Vraiment, en tant que famille, on se dit, mais on est réjouis avec vous et vous êtes dans la famille. Et même si vous n'étiez pas baptisé, vous êtes déjà dans la famille quelque part. Mais cette famille-là, c'est la famille de Dieu et il nous accueille. C'est ça l'Église. L'Église, c'est une famille, c'est sa maison. Et on en fait tous partie. Et du reste, à un moment donné, Paul, il parle aux Galates, je ne sais pas si je l'ai mis, non, je ne crois pas que je l'ai mis, mais il parle aux Galates, et les Galates, c'était encore une autre église à qui il écrit. Et il leur dit ceci, il leur dit, mais vous savez, parce qu'il y avait des tensions dans l'église, qu'est-ce qui fait que tu es un bon chrétien? Qu'est-ce qui prouve que tu es quelqu'un de bien ou pas? Peut-être que vous avez déjà entendu des discours comme ça dans les églises. Lui, c'est un bon chrétien parce qu'il a ça, 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 puis lui, c'est pas un bon chrétien parce qu'il n'a pas ça, 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 parce qu'il ne va pas à l'église régulièrement, parce qu'il n'est pas sa Bible, parce que... Il ne donne pas les 50% de son salaire au pasteur, ou parce que... etc. Et en fait, ou alors dramatiquement, comme cette secte actuellement, vous avez peut-être entendu parler de ça, qui prônait le jeûne, c'est le seul moyen d'approcher de Dieu, puis qu'il y en a plein qui sont morts. Donc voilà, c'est horrible. Il y a des choses des fois un peu de travers. Et Paul, il dit, mais en fait, c'est pas toutes ces choses-là qui comptent. La tension à l'époque, c'était, est-ce qu'il fallait être circoncis ou incirconcis? C'est-à-dire que, parce que les juifs, vous savez, il y avait la circoncision pour les hommes. Et puis, c'était le signe qui disait, c'est un signe de sainteté, c'est un signe que voilà, t'es un bon juif. Quoi. Puis du reste, c'est un signe que Dieu a demandé dans l'ancienne alliance, dans la Bible. Et puis quand Jésus il est venu, il a dit, en fait, c'est plus ça qui compte. C'est un changement de ton cœur. Mais ça crée des tensions. Et puis Paul, il dit, mais être circoncis ou ne pas être circoncis, c'est pas ça qui a d'importance. Ce qui compte, c'est que Dieu nous crée à nouveau. On trouve ça dans Galates 6, versets 14 et 15. Et il dit, moi je vais me voter que d'une seule chose, c'est de la croix de notre Seigneur Jésus. Ce qui compte, c'est que Christ nous crée à nouveau. Et on peut se vanter que de la croix, parce que ce n'est pas à la croix qu'on est renouvelé et transformé. Alors, et le dernier texte que j'aimerais vous laisser, c'est dans Éphésiens 5, verset 14, où il dit ceci. De nouveau, c'est Paul qui écrit encore une autre église, encore une autre ville en Grèce, Éphèse. Et il dit ceci, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Ce texte, il est super fort. Et j'ai envie de nous dire, est-ce que nous, des fois, on n'est pas endormi en tant que chrétien ou non-chrétien, peu importe là où on en est. Où est-ce qu'on en est? Comment est-ce qu'on vit les choses? Comment est-ce que tu vis ta foi? En tout cas, ce texte nous dit une chose, nous dit déjà qu'on dort. Parce qu'il dit réveille-toi, toi qui dors, ça veut dire que tu dors. Tu peux dormir debout, tu peux dormir sur le banc d'église, tu peux dormir pendant la louange, tu peux dormir pendant la prédication du pasteur, surtout quand c'est moi qui prêche. Tu peux dormir pendant les cours, tu peux dormir dans ta vie spirituelle, tu peux dormir dans ta marche, tu peux dormir de plein de manières. Puis à un moment, tu peux être réveillé. Tu peux être réveillé physiquement ou tu peux être réveillé spirituellement. Tu peux être réveillé émotionnellement ou spirituellement. Et encore, tu peux être réveillé dans une foi réelle. Ce texte nous dit aussi qu'on rêve-toi d'entre les morts. Et ça, c'est super interpellant. Parce que vous avez déjà imaginé dormir entre les morts. Je sais, c'est des images bizarres, hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui dorment tout le temps, ils meurent. Et Christ vient nous réveiller d'une mort spirituelle. Il nous ramène à la vie. Il nous ramène à la vie. Tu peux te sentir à terre. Tu peux te sentir au fond du trou. Tu peux te sentir sans espoir. Peut-être que tu n'as pas de boulot. Peut-être que tu stresses pour tes derniers partiels. Peut-être que tu as des soucis de famille. Peut-être que tu as des soucis, je ne sais pas, on a tous plein de soucis. Des soucis financiers ou des soucis parce que tu t'es évadé de prison. Peut-être que tu peux te sentir mort. Et là où tu en es. Et si tu prenais la main de celui qui te ressuscite, qui dit « J'ai une nouvelle vie pour toi. Relève-toi d'entre les morts. » Et Christ t'éclairera. C'est intéressant parce que nous, des fois, on croit qu'il faut le spot de Dieu sur notre vie pour qu'on se ressuscite. Il faut que pouf, Christ t'éclaire pour que tu ressuscites. Mais là, il est dit « Parce que tu te relèves, parce que tu te réveilles, alors Christ va t'éclairer. » Et c'est ça ma conclusion aujourd'hui, mes amis, avant qu'on passe notre temps des baptêmes. Si aujourd'hui, on va baptiser ces trois personnes extraordinaires, que sont Armel, Ludo et Melchior, c'est parce qu'à un moment donné, vous avez choisi, à partir de ce que vous avez entendu, de vous relever, de vous réveiller. Et Christ a commencé à éclairer les choses dans votre vie, a commencé à vous montrer le chemin. Vous avez été éclairé. Vous avez dit, yes, je veux suivre cette lumière-là. Je veux suivre cette lumière-là. Ma fille Anaëlle, quand elle avait 4 ans, on était à une grande fête en Suisse, à la Saint-Nicolas, c'est une fête assez importante. Et il y avait plein de monde. Et à un moment donné, elle s'est perdue. En fait, on a dit, on va rentrer à la maison. Mais elle est partie dans la foule différemment et on l'a cherchée partout. On l'a vraiment cherchée partout. Donc, on a dû appeler la police a commencé à appeler au micro. C'était dans une ville, ça. On paniquait vraiment quand tu as perdu ta fille. Vous savez ce qu'elle faisait? Nous, on l'a cherchée partout. On a même cru qu'elle était kidnappée, puis quelqu'un est passé la frontière avec elle. Vraiment, on a les boules. Elle, ce qu'elle avait fait? Non, elle rentrait à la maison. Toute seule, du haut de ses 4 ans, depuis le centre-ville, en plein hiver, dans la neige, elle rentrait tout seule, à pied, jusqu'à la maison. Et puis là, voilà. Mais en fait, Christ t'attend à la maison. Et tu peux te relever. Et plutôt que déprimer et dire je suis perdu, ben, je vais à la maison. Et Christ te montre le chemin. Et comme on a pu retrouver notre fille, et Jésus nous l'a retrouvé aussi, mais Jésus retrouve toujours le chemin avec toi et te ramène à la maison. Alors relève-toi. Relève-toi, tu ne vois pas d'issue à la crise. Tu ne vois pas d'issue à ta situation. Tu ne vois pas d'issue à toutes tes questions. Tu ne comprends pas tout. Lève-toi. Tu te sens dans la mort. Lève-toi. Tu as des doutes. Lève-toi. Tu ne sais pas où tu vas. Ce n'est pas grave. Lève-toi. Parce que quand tu te lèves, Christ t'éclairera. Lève-toi. Christ t'éclairera. Lève-toi et on va te baptiser. Christ t'éclairera. Lève-toi. 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 Ne laisse pas la mort triompher de toi, parce que Christ t'a donné la vie. Et être chrétien, c'est ça. Ce n'est pas faire partie d'une religion, ce n'est pas faire partie d'une secte, ce n'est pas faire partie d'un petit groupe de gens bizarres, même si on est bizarre. Non, c'est marcher dans la vie, marcher avec celui qui a la victoire. Il y a cette histoire d'une petite souris qui trouve un éléphant. Et cette petite souris, eh ben, elle voit cet éléphant, elle dit, lui, ça va être mon pote. Alors, elle monte sur le dos de l'éléphant, tac, tac. Et puis, elle vit un peu sa petite vie avec l'éléphant, puis ça devient son super pote. Puis, à un moment donné, il y a un pont suspendu. Et l'éléphant arrive face au pont, et puis, il voit le pont, il dit, ouais, ça va le faire. Et il traverse le pont. Puis, il y a tout qui tremble, tout qui bouge, tout ça, un peu, wouhou! Puis il traverse, il arrive de l'autre côté, puis le pont, il a bien tremblé sous le poids de l'éléphant et de la souris. Et quand ils arrivent de l'autre côté, la souris, elle dit à son pote, l'éléphant, « Hé, toi et moi, elle a bien fait tout trembler. Hein. » Eh bien, on est des souris. Et Christ est l'éléphant. Et il fait des fois tout trembler. Alors, monte sur le dos de l'éléphant. Et tout va bouger dans notre vie. J'aimerais prier. Seigneur, merci pour ce jour de baptême, pour ce jour de joie. Merci parce que tu proposes une vie nouvelle. Et en fait, cette vie nouvelle, cette nouvelle naissance que tu nous proposes, on peut tous la prendre. Et même si on est dans la foi depuis longtemps ou pas, peu importe là où on est dans notre chemin de foi, aujourd'hui tu dis, mais je tends la main vers toi et tu peux marcher avec moi. Et aujourd'hui tu nous dis, Seigneur, tu nous dis plutôt, mon enfant, je t'aime tellement que je veux être le meilleur pour toi. Et ça, c'est vrai pour chacun, pas que pour les trois baptisés. Pour chacun, tu nous offres une merveilleuse vie, faite pleine de joie, avec des défis, certes, mais tu seras toujours là avec nous. Tu seras cet éléphant qui nous portera. Tu es celui qui nous soutient. Tu es celui qui fait reverdir le désert, fait jaillir des sources d'eau vive. Tu es celui qui fait toutes choses nouvelles. Aujourd'hui, Seigneur, montre-nous ta vie. Aujourd'hui, Seigneur, fais jaillir ta vie en nous. Aujourd'hui, Saint-Esprit, on t'accueille parce que si on n'a pas l'Esprit de Dieu, alors on est comme sec. Il n'y a pas de vie en nous. Tu diras dans la Bible, Seigneur, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. C'est pourquoi on a besoin de ton Esprit Saint. On a besoin d'être rempli de toi. Je prie, Saint-Esprit, viens toucher chacun maintenant. Chacun aujourd'hui. Viens toucher les cœurs de chacun. Viens nous parler, Seigneur. On a besoin d'être à nouveau rafraîchi par ta source de vie. Que ta vie vienne triompher de la mort en nous. Parce que tu es tellement bon, Seigneur. Et tout ce que tu as pour nous n'est que bonté. Tout ce que tu as pour nous n'est que perfection. Parce que tu sais ce qui est bon pour nous. Et apprends-nous à marcher avec toi et à te connaître. Merci Jésus pour cette vie extraordinaire que tu donnes. Et merci pour ces trois baptisés qu'on va célébrer maintenant. Amen. 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 Merci d'avoir écouté. Et puis c'est avec plaisir qu'on prend le temps de prière plus tard après les baptêmes aussi, parce qu'on honore les baptisés. Mais si l'un ou l'autre a besoin de prière ou autre, passe à tout ce qui est partagé.
Merci d'avoir écouté notre podcast. Nous espérons que vous avez été bénis au travers de ces baptêmes et de ce message. Si vous avez des questions en relation avec le baptême ou pour plus d'informations, nous serons ravis de vous lire par email à contact@eglise-la-maison.fr. Vous pouvez aussi nous retrouver sur Facebook et Instagram sous Église La Maison en un seul mot. À très bientôt. Que Dieu vous bénisse.